France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Philippe Mérieux, professeur, en retraite mais pas complètement en retrait, chercheur en pédagogie, militant de l'éducation populaire.
Premier épisode, un Philippe peut en cacher un autre. Bonjour Philippe Mérieux.
Bonjour.
J'aurais pu dire un Philippe peut en cacher beaucoup d'autres, vu la présentation que vous avez faite de vous-même. De fait, votre nom est indissociablement lié à la pédagogie. On pourrait même dire que vous êtes la figure intellectuelle qui incarne la pensée pédagogique française contemporaine. Tour à tour enseignant, chercheur, formateur, expert pour des politiques, professeur d'université en sciences de l'éducation, vous avez consacré votre vie à l'éducation, à l'art d'apprendre, c'est joli l'art d'apprendre, à la façon et même à la meilleure façon d'enseigner et de transmettre des connaissances aux enfants, au point de vous dire militant en pédagogie. Il faut dire aussi que vous êtes un infatigable passeur. Je pense à d'innombrables interventions médiatiques, à des chroniques, par exemple dans l'hebdomadaire La Vie, pendant 8 ans quand même. Vous êtes aussi l'auteur d'une série de 26 émissions consacrées aux grands pédagogues et aux grandes questions de la pédagogie diffusées sur France 5, cette émission qui a pour nom l'éducation en question, on y revient toujours. Et puis vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres. Par ailleurs, et si vous me permettez de terminer par cela, si en France vous avez été beaucoup et parfois vertement critiqué, voire attaqué, vous êtes en dehors de la France admiré, reconnu, et j'en veux juste pour preuve le fait que vous soyez docteur honoris causa de l'Université libre de Bruxelles et de celle de Montréal. Pour commencer, puisque militant en pédagogie, chercheur en éducation et tout ce qui s'ensuit, où avez-vous puisé, Philippe Mérieux, cette indéracinable foi dans l'école? Quelle est justement la racine de cet engagement pour l'éducation?
Probablement dans ma propre histoire. Je suis né, il y a maintenant bien longtemps, en 1949, dans les Cévennes, dans une ville minière à l'Est, dans une famille un peu particulière, très enracinée dans la grande tradition de la droite française. Mon grand-père maternel était Action française, il a été arrêté à la Libération. Mon père avait fait le choix du maréchal Pétain en 1942, il était cadre chez les Scouts de France et il était allé à Vichy pour dire son allégeance au maréchal. Et j'ai été élevé dans un contexte très particulier, avec comme figure tutélaire Barrès, Maurras, les grandes figures de la droite, voire de l'extrême droite. Et dans ce contexte-là, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs moments de découverte intense. D'abord l'école. L'école qui a été pour moi, dès l'école primaire, un moment fantastique à Alès. Un moment d'émancipation. C'est toujours difficile de puiser dans ses souvenirs et d'en décortiquer un ou deux, mais une anecdote de l'enfance qui peut paraître dérisoire. Je me souviens un jour avoir pu contredire mon père grâce à mon instituteur. Alors c'était une question complètement anecdotique, hein, bien sûr. Mon instituteur nous avait parlé de la Bretagne, il nous avait dit « il y a le Finistère Nord et le Finistère Sud ». Et j'avais parlé de ça au repas familial, et mon père m'avait dit « mais non, j'ai jamais entendu parler de ça ». Et j'étais allé chercher à l'époque le calendrier des postes qui faisait autorité pour montrer à mon père que mon instituteur avait raison et qu'il avait tort. Et je pense que ces petites choses-là, que l'école nous permet de mettre en œuvre, elles sont réellement émancipatrices. C'est-à-dire que je n'en aimais pas moins mon père pour autant, mais en même temps, j'étais plus complètement assujetti à penser comme lui et à considérer tout ce qu'il disait comme étant la vérité.
Vous disiez, Philippe Mérieux, que votre père était parti faire allégeance au maréchal Pétain en 42. Si vous vous appelez Philippe, ça n'est pas un hasard?
Oui, bien sûr, je pense que c'est une référence à la fois, c'est un prénom à la fois royaliste, hein. Mon grand-père était Action française, et aussi une allégeance au maréchal, bien sûr.
Quelle était la place des femmes dans cette famille? Vous parlez du père, du grand-père. Je crois que vous aimiez beaucoup votre grand-mère paternelle.
Oui, parce qu'elle a constitué pour moi la seule ouverture. Une ouverture parce que je trouvais chez elle une écoute et l'écoute de quelqu'un qui me prenait au sérieux et me parlait comme un adulte, alors que mes parents me parlaient comme un enfant. C'est quelque chose qui me frappe. Évidemment, tout le monde sait bien que si on attendait que les enfants sachent parler pour leur parler, ils parleraient jamais. Et je pense qu'il faut leur parler tôt, un peu comme on parle à des adultes, pour susciter en eux, d'une manière un peu anticipée, leur intelligence, leur sensibilité. Et c'est ce que ma grand-mère a fait avec moi, alors que mes parents m'ont toujours considéré comme un gosse. Et pour moi, ça a été une vraie bouffée d'oxygène de pouvoir bénéficier d'un lieu où on parlait entre adultes, même quand j'étais tout petit.
On parlait beaucoup dans la famille, ou on était plutôt taiseux? Est-ce qu'on exprimait ses sentiments, par exemple?
Non, on n'exprimait pas du tout ses sentiments. On avait beau être catholique, ma famille était catholique, on vivait dans un environnement dominé par la mentalité protestante, on tait ses sentiments. Ma grand-mère elle-même taisait tous ses sentiments. Je me souviens, quand j'allais la voir, je savais qu'une demi-heure avant mon arrivée, elle me guettait à sa fenêtre, et dès que j'arrivais, je la voyais à son ouvrage, devant sa machine à coudre. Elle levait à peine les yeux, elle disait « Ah, tu es là, je finis ». Elle me faisait attendre 5 minutes juste pour me montrer qu'elle ne m'attendait pas, parce que le sentiment ne devait pas être montré. Il fallait cacher son sentiment. Je reste un peu comme ça aujourd'hui, d'ailleurs, moi. J'ai du mal à exprimer des sentiments. Les Cévenols détestent les Provençaux. Vous savez, les Provençaux, c'est les danses, c'est une espèce de sentimentalité un peu exubérante, tout ça. Le Cévenol est un taiseux, le Cévenol, il est intérieur, et il considère que toute forme d'exhibition est préjudiciable à tout, à la socialité, mais aussi à des relations humaines authentiques.
Alors revenons à l'école, à ce lieu où peut-être il était plus facile d'exprimer un tant soit peu les choses qui étaient intérieures. Philippe Mérieux, vous parliez justement de l'importance pour vous très tôt, très jeune, de l'école avec la place de l'instituteur. Est-ce que vous étiez bon élève et est-ce que vous aimiez ça?
Oui, j'étais plutôt bon élève, mais j'avais des moments de creux et de vide aussi. Parce qu'à certains moments de ma scolarité primaire, je me souviens, je m'intéressais plus du tout à l'école, mais je m'intéressais à un certain nombre de choses qui se passaient dans la cité, puis je faisais des dossiers. Je me souviens qu'une année, j'ai pratiquement rien fait à l'école parce que j'ai passé mon année à me documenter sur le creusement du tunnel sous le Mont-Blanc.
Ah oui, quand même.
Et donc, j'avais accumulé une documentation absolument considérable sur la question, avec des problèmes qui étaient à la fois de physique, de logistique, etc., de géologie. J'étais même allé interroger des ingénieurs des mines pour leur demander comment ça se faisait, comment on pouvait creuser un tunnel, etc. J'avais demandé à mon instituteur si je pouvais faire une petite conférence, un petit exposé en classe. J'avais pas eu cette chance. Et il avait, à la fin de l'année, il m'avait vertement grondé en me disant que j'avais beaucoup négligé ce qu'on avait fait en classe. Mais il avait quand même reconnu que le gros dossier que j'avais accumulé sur le tunnel du Mont-Blanc était quand même intéressant.
Vous étiez curieux?
Oui, sans aucun doute, curieux, et puis intéressé par tout ce qui me permettait de creuser un peu les choses, de pas en rester à la superficie, voilà.
Tout a changé en sixième. Que s'est-il passé en sixième?
Oui, donc mes parents étaient des catholiques traditionnalistes, très enracinés à la fois dans leur foi et dans la tradition catholique. Hein. Et pour sauver mon âme, ils m'ont confié à l'aumônerie du lycée. À l'époque, les lycées commençaient dès la classe de sixième. Ça a été l'erreur de leur vie, parce que là, il s'est trouvé, nous étions dans les années du Concile Vatican II, que l'aumônier était un prêtre ouvrier, militant par ailleurs du Parti communiste, et que l'aumônerie s'est avérée être une espèce de lieu extraordinaire, fantastique, d'échange intellectuel, de découverte d'une multitude de choses, et qu'elle a contribué très largement, après l'école, à m'ouvrir l'esprit vers une infinité de perspectives dont je me nourris encore aujourd'hui.
Par exemple, vous êtes passionné pour Pierre Teilhard de Chardin, paléontologue jésuite.
Absolument.
Qui est en froid avec l'Église, ce qui n'a pas plaire à vos parents. Pourquoi lui?
Parce qu'il était en froid avec l'Église, parce que c'était une manière de réconcilier la foi et la science, et que c'était important pour moi, qui avait envie de cette réconciliation. C'était un personnage important, mais il y en avait d'autres. Je me souviens m'être intéressé beaucoup à Josué de Castro, qui travaillait sur la faim dans le monde à l'époque, et sur les questions de l'alimentation et de la famine. Je me souviens m'être beaucoup intéressé aussi aux questions d'éducation. Déjà, avec l'aumônerie, on avait ensemble regardé des films. Ensuite, il y a eu le ciné-club du collège et du lycée. Je me souviens d'un film qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué à l'époque. C'était Miracle en Alabama. Vous savez, c'est l'histoire de cette jeune femme muette que, à force d'accompagnement, une rééducatrice réussit à faire parler et réussit à accompagner pour qu'elle accède à la communication. Oui, tout ça m'a complètement changé, m'a donné un goût pour l'éducation réellement. Je crois que c'est là que j'ai acquis cette idée que les êtres humains étaient éducables et qu'on ne devait jamais désespérer de quiconque et qu'on pouvait toujours espérer le meilleur de chacun d'entre eux.
Plus l'éducation que la culture, vous découvrez aussi, vous parlez du ciné-club, des films que vous avez vus, vous découvrez aussi le Festival d'Avignon, là.
Oui, alors le Festival d'Avignon, c'est effectivement très important. J'y participe dès ma classe de seconde. Je suis accueilli là-bas par les CMEA.
Je vous interromps, je fais juste une petite parenthèse, Philippe Mérieux, puisque vous évoquez les CMEA, ces centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Il se trouve que nous enregistrons ces émissions au siège des CMEA à Paris, dans le 18e arrondissement, puisque vous en êtes le vice-président depuis 2022. On enregistre ces émissions à la fin 2024. C'est quoi les CMEA ?
Alors les CMEA, Centres d'entraînement en méthode d'éducation active, ont été créés en 1937 sous le Front Populaire, au moment où on crée des tas de colonies de vacances et où il faut former des moniteurs, des animateurs, et qui participent également à l'accompagnement des spectateurs au Festival d'Avignon. Les CMEA ont été sollicités par Jean Villard pour créer à Avignon un accueil de jeunes. Et depuis, les CMEA continuent à militer, à former des animateurs, à travailler aussi dans l'éducation populaire pour accueillir des jeunes au Festival d'Avignon, mais ailleurs, et puis également pour travailler avec des adultes sur des questions comme l'illettrisme, les grandes difficultés d'insertion, les problèmes aussi de relégation ou d'exclusion.
Ça relie d'une certaine façon votre enfance, puisque vous permettez à d'autres enfants que vous de découvrir cette éducation et cette culture populaire qui vous avait été donnée à l'aumônerie de votre lycée.
Oui, et puis au Festival d'Avignon, où les CMEA ont été très déterminants pour moi. Et au fond, les CMEA inspirent ce que moi j'appelle dans mes travaux les tiers-lieux, qui à côté de la famille, qui est essentielle à l'éducation, à côté de l'école, permettent aux enfants et aux adolescents de trouver des espaces de liberté, de responsabilité, de rencontre avec la culture. Et donc moi je trouve à Avignon des choses fantastiques. D'abord je découvre que la culture c'est pas forcément des cours magistraux, c'est pas forcément ce que je vis de manière très académique au collège ou au lycée. Et puis je découvre que cette culture, elle résonne avec ce que je suis. Au fond, moi, ma conception de la culture, je l'ai construite dès ces moments-là. Et je dis souvent, quand on me demande comment je définis la culture, que c'est ce qui relie ce qu'on a de plus intime à ce qu'il y a de plus universel. C'est vrai que je me souviens d'Avignon, je me souviens de Villard, je me souviens des tragédies grecques, Maria Cazares. Je me souviens l'avoir attendu à la sortie de la cour d'honneur, tellement j'avais de l'admiration pour ces gens-là. Et je me souviens avoir vibré et avoir senti très fortement que ces grands textes parlaient aussi de moi et me parlaient de moi sans me violer dans mon intimité. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai découvert là et qui m'a toujours habité. Les grands textes, les grandes œuvres de culture parlent de nous et nous relient aux autres, à ceux qui ont créé avant nous, à ceux qui les verront après nous, nous relient aux autres et en même temps ne vont pas farfouiller dans notre psychisme. C'est un cadeau fabuleux. C'est un peu comme quand un enseignant, une institutrice lit le petit poucet à des enfants. Elle leur lit un texte qui les renvoie à eux-mêmes parce que tous les enfants ont peur d'être abandonnés par leurs parents. C'est un fantasme de tous les enfants. Alors, la maîtresse pourrait leur dire « T'as pas peur que ta maman vienne pas te chercher à 4h30 ?» Mais non, ça, ce serait farfouiller dans leur intimité. La maîtresse leur fait un cadeau fabuleux. Elle leur lit un beau texte où l'enfant va découvrir que son angoisse intérieure résonne avec une œuvre culturelle, que ça le relie aux autres et que ça aboutit à une forme de symbolisation qui fait qu'il n'en est plus, en quelque sorte, la victime, mais il devient celui qui peut manipuler le symbole. Et pour moi, cette découverte de la culture comme étant une possibilité d'accéder à cette manipulation du symbole a été très très importante. Je le dois en grande partie à ce que j'ai découvert à Avignon grâce à Jean Villard et à tous ceux qui ont créé ce festival.
Qu'est-ce qui fait Philippe Mérieux, puisque vous disiez que c'est là aussi, dans ces années-là, que s'est forgé en vous cette envie d'aller vers l'éducation par la découverte de l'éducation populaire, mais donc aussi de la culture. Qu'est-ce qui fait que vous avez plutôt opté vers l'éducation que vers la culture, même si les deux sont liés, hein?
Oui, j'aurais pu aller vers le théâtre. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de théâtre avec mes élèves et nous avons travaillé beaucoup en théâtre. Mais je suis allé vers l'éducation parce que, au fond, très vite, ma crise d'adolescence s'est cristallisée autour de la question éducative. Mes parents, au fond, dans toutes les discussions que j'avais avec eux, me renvoyaient en permanence l'idée que rien n'était possible parce que les hommes étaient mauvais. Ils avaient une sorte de pessimisme anthropologique. Oui, tu crois que tu peux améliorer le monde, mais non, tu vois bien que les gens, ils obéissent qu'à la baguette. Oui, tu veux faire en sorte que les choses aillent mieux, mais regarde le monde autour de toi. Les gens sont tous des égoïstes qui cherchent à capter le bien d'autrui. Non, seule la police, l'armée, ils étaient dans cette logique que la répression est le seul outil pour gouverner les humains. Et ma révolte adolescente a été « non, c'est pas vrai ». Bien sûr, toute société a besoin de répression, il y a des transgressions qu'il faut sanctionner. Mais très vite, ce qui m'opposait à mes parents, c'était « face à tout dysfonctionnement, on doit toujours chercher aussi une solution par l'éducation, par la prévention ». Alors, ça peut prendre des formes différentes, l'éducation par l'école, l'éducation par la famille, l'éducation populaire, tout ce que j'avais vécu, aussi dans les colonies de vacances, dans tous ces lieux-là. Mais cherchons aussi des situations par l'éducation, parce que l'humain n'est pas complètement et définitivement mauvais. Nous pouvons encore parier sur le fait que, mis dans des situations exigeantes et bienveillantes à la fois, chacun peut donner le meilleur de lui-même. Et j'avais envie de consacrer ma vie à ça. Je pense que j'ai puisé dans ma révolte d'adolescent, et à certains égards, mes parents m'ont rendu service, parce qu'ils m'ont permis de théoriser ma conviction dans l'éducabilité des personnes. Parce que précisément, ils étaient, eux, convaincus du contraire. Alors ils m'ont donné de la colère, mais ils m'ont donné de la force aussi pour m'engager très tôt sur ces questions éducatives et considérer que faire la classe, c'était le plus beau métier du monde.
On va revenir à cette question du militantisme ou des engagements, des premiers engagements qui furent les vôtres, Philippe Mérieux, mais juste un mot par rapport à ce que vous ont apporté, peut-être malgré eux, vos parents, mais en termes de religion. Parce que vous disiez que vous étiez un petit Cévenol, élevé dans le catholicisme, or, les Cévennes, c'est une terre protestante. C'est plus protestant que catholique, comme région. Et j'aimerais bien savoir, là aussi, presque en creux, en quoi pourriez-vous dire que le protestantisme a été moins important, aussi important, plus important pour vous dans la façon dont vous avez conçu le rôle de l'éducation dans la société, pour le dire comme ça?
Alors, notre aumônier et à l'aumônerie, on accueillait indépendamment des religions. C'est une période où, dans la mouvance un petit peu œcuménique, on cherchait le dialogue interreligieux. Et moi, très tôt, dès ma classe de sixième, j'ai discuté avec les pasteurs protestants, mais aussi avec mes collègues lycéens protestants. Et le protestantisme est apparu très vite aussi une manière de damer le pion à mes parents, parce que au fond, j'ai compris très vite ce qu'avait été le protestantisme. Ce sont les premiers à avoir traduit la Bible en langue vernaculaire, à faire le pari que le fidèle peut s'approprier le texte sans passer par la médiation d'un clerc qui choisit dans le missel le bon extrait. Ce sont les premiers à avoir construit une forme d'horizontalité entre les fidèles et le clerc. Et puis, j'ai découvert plus tard l'importance qu'ils avaient eue, évidemment, dans la construction de la République et de l'école, en particulier autour de cette figure extraordinaire qu'est Ferdinand Buisson, protestant, mais aussi un des acteurs majeurs de la construction de l'école publique en France. Et donc, le protestantisme a été pour moi un bain culturel qui, indépendamment de l'aspect, on va dire, spécifiquement théologique des choses, m'a donné la possibilité d'accéder à cette, à ce primat de la confiance dans l'autre et dans l'intelligence de l'autre. Confiance dans l'intelligence de l'autre contre toutes les formes d'emprise sur les esprits. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de fondamental et j'ai eu la chance après, dans ma vie professionnelle, universitaire, de pouvoir travailler sur l'importance du protestantisme dans la pensée éducative. Alors, je veux pas déifier, l'expression est malheureuse, le protestantisme. Bien sûr, Max Weber a raison sur le capitalisme et le protestantisme, mais sur le plan éducatif, le protestantisme a été déterminant. En particulier, pour affirmer l'importance émancipatrice de la lecture. Lire, c'est accéder soi-même au texte. C'est donc s'émanciper de ceux qui lisent à votre place et qui vous disent ce qu'il faut penser. Donc que l'école de la République ait mis la lecture en priorité avant toute autre chose, ça m'est apparu très tôt comme un projet fondateur de l'émancipation à l'égard de toutes les formes d'autoritarisme, qu'il soit militaire ou religieux.
Et pourtant, vous n'êtes pas devenu protestant pour autant, vous êtes plutôt devenu un catho de gauche, comme on dit.
Oui.
Et encore, je ne sais pas, c'est une question.
Oui, je suis devenu quelqu'un qui, sur le plan de sa foi, est agnostique, mais qui se retrouve dans la tradition de ce qu'on pourrait appeler le christianisme social. Je me souviens, je suis, après mon lycée, arrivé au lycée Henri IV.
À Paris. Pour faire Hippocagne.
Alors là, j'étais très minoritaire, évidemment, puisqu'à l'époque, c'était les Mao qui tenaient le haut du pavé, c'était Althusser qui enseignait à côté à l'école normale supérieure, c'était le marxisme, y compris avec ce qu'Althusser appelait la rupture épistémologique par rapport à l'humanisme, il fallait surtout pas être humaniste. Et moi, j'étais un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, certainement pas, parce que j'ai pas beaucoup bousculé de choses, mais j'étais très différent. Quand je repense à cette époque, je me dis qu'au fond, les gens qui, comme moi, s'inscrivaient dans cette tradition du christianisme social se sont peut-être quand même un peu moins trompés que les autres. Quand on regarde leur rapport à ce qui s'est passé en Chine, moi, à l'époque, j'étais face à des collègues qui admiraient et applaudissaient la grande révolution culturelle prolétarienne, GRCP, qui me disaient que c'était l'émancipation absolue des hommes. Quand on voit ce que ça a donné en nombre de morts, on est quand même un tout petit peu interrogateur. Et on avait raison. Il me semble que le petit groupe de Tala, on appelait les Tala ceux qui allaient Talamesse. Le petit groupe de Tala dont je faisais partie, qui interrogeait les marxistes, léninistes, maoïstes d'une manière un peu insistante sur la façon dont ils traitaient l'humain, eh bien, il me semble qu'on n'avait pas complètement tort.
Il y avait les maoïstes, mais il y avait aussi les communistes.
Ah, oui, il y avait les communistes.
Très, très fort. Les trotskistes et tout le monde se battait.
J'avais du mal à me ranger dans un de ces camps-là. J'ai pas choisi de camp particulier. Moi, j'ai vécu mes 68 alors que j'étais à Hippocagne. Je l'ai vécu comme une grande séance de travail. Pas du tout comme jouissons sans entrave, hein. Nous passions nos journées et nos nuits à imaginer un nouveau système de bourse, à repenser l'enseignement professionnel, à construire un système de démocratie représentative autrement que sur le vote majoritaire, etc., etc. Donc c'était pour nous une séance de travail extrêmement intense, très, très fascinante aussi, avec de temps en temps quelques moments un petit peu d'émotion collective, évidemment. Mais au sein de cette ambiance-là, moi, il me semble avoir toujours résisté un petit peu à l'embrigadement dans une de ces chapelles qui se disputaient alors, et être resté plutôt fidèle à un humanisme exigeant, être plutôt resté autour de grandes figures. Je pense à Emmanuel Mounier, par exemple. Parce qu'au fond, quand Mounier disait « ni tout État, ni tout marché », il disait rien d'autre que ce sur quoi aujourd'hui beaucoup de gens à gauche s'accordent. Mais il le disait d'une manière qui était à l'époque qui n'était pas très audible.
Vous étiez engagé auprès des jeunesses étudiantes chrétiennes.
Oui.
Dans le mouvement pour la paix.
Oui.
Le mouvement de la paix était plutôt
communiste. Était communiste, tout à fait. On s'entendait très bien. Il y avait des... D'abord, il y avait des batailles communes, hein, le Vietnam, bien sûr. De grandes batailles communes. Et puis, il y avait beaucoup de choses qui nous réunissaient dans nos idéaux. Après, Cagne et Hippocagne sont un peu particuliers parce que là, le dogme l'emporter sur l'idéal. Et les batailles dogmatiques étaient un peu pénibles. Mais dans le militantisme quotidien, on était très au coude à coude.
Et dans votre quotidien aussi, Philippe Mérieux, il y a les lettres. Vous étiez un grand amoureux des lettres. Et pourtant, d'ailleurs, ce sont des études de philosophie que vous faites. Comment ça se fait ?
C'est un peu le hasard, mais oui, j'aurais peut-être dû faire des études de lettres. J'ai engagé une licence de lettres par la suite, d'ailleurs.
Ça n'était pas un reproche, hein. C'était plutôt... Non. Bon.
C'est vrai que j'étais toujours, et j'étais à l'époque un grand lecteur, un grand amateur de la littérature. Mais la philosophie était présente partout et nous était présentée comme la discipline reine, quoi. Il fallait absolument intégrer le pool des philosophes si l'on voulait pouvoir penser le monde. D'une certaine manière, je le regrette un peu aujourd'hui.
Vous étiez dans la même classe qu'Alain Finkielkraut ?
Dans le même lycée, oui.
Dans le même lycée, pas dans la même classe, quand même. Mais déjà, ça, on le retiendra pour plus tard, parce que Alain Finkielkraut est une figure qui revient, qui va revenir dans votre parcours nécessairement, Philippe Mérieux, un peu plus tard. En 1969, vous passez donc le concours de l'École normale supérieure. Vous
Je
échouez.
Tout à fait.
Quelles conséquences ?
Oui, j'étais à l'époque en rupture avec mes parents. La première conséquence a été la nécessité de trouver un travail. J'avais plus du tout envie de cuber, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de redoubler ma classe de Cagnes. Et j'ai cherché un travail que j'ai trouvé dans le cadre d'une école qui était alors complètement privée de tout d'ailleurs, et qui cherchait à embaucher des enseignants à bas prix. Et j'ai fait mes premières armes comme ça, auprès d'élèves qui la plupart étaient plus âgés que moi d'ailleurs, de première et de terminale, et auprès desquels j'ai commencé à mettre en œuvre, à mettre en pratique ces convictions pédagogiques que j'avais acquises les années précédentes.
Et c'est ce qu'on verra dans l'épisode 2, Philippe Mérieux. Mais une dernière question pour clore ce premier épisode. Vous disiez que vous étiez à ce moment-là en rupture avec vos parents. Est-ce que vos parents ont bougé après, dans les années suivantes, dans les décennies suivantes ?
Oui, mes parents ont bougé. Je pense mon père surtout a bougé. Un événement les a fait beaucoup bouger. Je n'avais qu'un frère qui fut une des premières victimes du sida dans les années 80. Et ça a été un peu sismique quand même. Ça les a amenés à repenser un peu les choses. Je pense qu'ils ont bougé. Les discussions que j'ai eues avec mon père avant sa mort étaient plus apaisées. Je pense qu'il a même à un moment donné... témoigner une forme d'estime pour mon travail, mais peut-être que je cours toujours un peu après sa reconnaissance.
Merci Philippe Mérieux. On se retrouve demain pour l'épisode 2 sur la pédagogie.
Avec plaisir.
Alors à demain.
Merci et à demain.
C'était À Voix Nue avec Philippe Mérieux, réalisation Manouchak Fachahi, prise de son Benjamin Reyes, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.